France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine live de toute la scène française et plus, et Affinité bien sûr. Ça se passe au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Il est suréclairé par la présence de Marion Guilbeault. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Ce soir au programme, Marion, aux amis quoi?
Je vais profiter de la présence de nos deux invités affûtés, fités comme ils sont, pour ouvrir quelques dossiers SM. Calmez-vous, scène musicale SM, c'est ça que ça veut dire, vers 22h30.
Tout pour la musique chaque soir, 22h, 23h. Et nos invités sont Thomas Bangalter et Lucie Antounès. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Thomas Bangalter, vous signez Mythologie, un double album pour une musique de ballet chorégraphiée par Angelin Prel-Jocage. Pas d'électro, pas d'ordinateur pour l'ex-Daft Punk que vous êtes, mais 1h30 de musique symphonique hantée par Prokofiev, Tchaïkovski, John Carpenter et une orchestration inventive qui fait parfois glisser les violons au bord de la dissonance. Pour vous, Lucie Antounès, c'est Carnaval, deuxième album qui fait de la fête un programme politique, le Carnaval pour une esthétique du renversement. Voilà, Côté Club, c'est ouvert, comme chaque soir. Où ça ? Entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ouverture, Étienne Dao qui était hier matin au micro de Rebecca Manzoni dans Totémique sur France Inter, en avant-première puisque la sortie de son album est prévue pour mai prochain. Dans une interview, et ça vous concerne Thomas Bangalter, Étienne Dao déclarait « Dès le départ, j'aurais dû mettre un casque comme les Daft Punk pour ne pas me montrer quelle bonne idée, maintenant c'est trop tard. » Ben oui, Boyfriend sur France Inter.
Je serai ton ami et ton boyfriend aussi, celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Je serai tout prêt, gardant bien mes distances. Poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai. Je serai ton défi, mais ni ton père, ni ton psy. Et lorsque tu dérouilles, je serai là pour calmer les embrouilles. Une solide épaule. Le contrôle, ta machine infernale, ton étalon, la BO de ton film. Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai à l'envie.
Thomas Bangalter et Lucie Antounès sont nos invités côté club ce soir. Je ne sais pas si vous vous connaissez, si vous vous êtes déjà croisés.
Non.
Mais vous vous connaissez musicalement, j'imagine. Lucien Tunès. Alors,
moi, oui.
Moi, oui, oui.
Les deux. Alors, je fais quand même les présentations rapides. Hein. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de Thomas Bangalter, ex Daft Punk, héros de la French Touch, compositeur de musique de film. Je pense à vos collaborations avec Gaspard Noé. Je sais, c'est un raccourci, on va aller très vite. Lucien Tunès, d'abord un parcours classique, du piano à la batterie, puis un groupe de rock, une collaboration avec Moodoïd, plus qu'une collaboration, avec Aquaserge, et puis ensuite vous basculez dans l'électro avec Yuxek. Aujourd'hui donc, un nouvel album, Carnaval, on va y venir dans quelques instants. C'est drôle la programmation, parce que l'année dernière, quand on vous a reçu, vous étiez invité avec Jean-Benoît Dunkel de R à Daft Punk, il faut dire qu'on on vous gâte.
Oui, vous me gâtez, oui, merci beaucoup.
Et chaque fois, on va faire ça va être un concept. Chaque fois que vous allez venir, on va inviter les nouveaux héros de la French Touch.
Avec
aujourd'hui,
plaisir.
Donc, c'est un nouvel et premier album en solo, signé chez Erato pour vous, Thomas Bangalter. Erato, label de musique classique. Oui. Le titre Mythologie, une musique écrite pour le ballet d'Angelin Prège-Locage, qui vous connaît bien, puisqu'il l'avait déjà utilisé. Des morceaux de la période Daft Punk pour son ballet Gravité en 2018. Il vous avait pris des morceaux dans Tron Legacy, c'est ça ?
Exactement, oui.
Vous aviez donné votre accord ?
Oui, oui, je connais Angelin depuis de nombreuses années et j'apprécie beaucoup son travail et on avait bien sûr accepté quand il nous avait proposé d'utiliser la musique pour Gravité.
Alors cette fois-ci, c'est une musique originale. Qu'est-ce qu'il vient vous dire quand il vous contacte pour écrire la musique de son ballet Mythologie ? Il avait déjà, j'imagine, le titre, il avait déjà rien.
Non, il n'avait rien. En fait, il avait juste une demande de Marc Minkowski, du chef d'orchestre qui était directeur de l'Opéra de Bordeaux à l'époque, en 2019. Et il venait de conclure 3 ans de partenariat avec l'Opéra de Bordeaux, avec des reprises de ses ballets au répertoire. Et Marc Minkowski, à ce moment-là, pour conclure les 3 ans, lui fait une commande d'une création. Et c'est à ce moment-là qu'Angelin vient me demander si je serais intéressé d'écrire la musique d'un ballet qu'il chorégraphierait lui. Et à ce moment-là, je lui dis ça m'intéresse sur l'idée. Je commence à faire des esquisses un petit peu. Lui espérait davantage, je pense, quelque chose d'hybride entre des sonorités orchestrales et électroniques. Moi, je l'avais déjà fait. Ça m'intéressait davantage d'essayer de faire quelque chose entièrement acoustique.
Vous vouliez vous libérer de l'électro ?
Non, je voulais explorer d'autres choses. Non, c'était, moi, je suis dans une volonté d'exploration continuelle. Et là, il y avait une opportunité, j'ai trouvé quand il m'a proposé. Donc, je lui amène ensuite ses esquisses. Et c'est de cette musique qu'il a l'idée des mythologies à la suite de ce que je lui avais fait écouter.
Comment on peut comprendre ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a entendu dans la musique que vous avez proposée qui pouvait lui donner cette idée donc, de construire un ballet ? Il va y avoir une vingtaine de tableaux, 1h30 de chorégraphie, des scènes dans des univers différents, la mythologie grecque est convoquée, une arène avec un duel de catcheurs. Si j'ai eu des souvenirs, hein, il y avait des Amazones, des hommes d'affaires en cravate qui défilaient à un moment donné devant des vidéos de guerre, il me semble. Comment ça lui donne ?
Ça, faudrait lui poser la question.
Il ne nous a jamais rien dit de cela.
Je pense qu'il était au départ peut-être surpris par cette proposition musicale il fait de la musique de la danse contemporaine, pardon. Et c'est vrai qu'il y avait une proposition assez lyrique et un peu, je sais pas, néoclassique un peu dans ma proposition et donc cette idée de mythologie, j'ai l'impression qu'elle ça a défini en fait une direction où il imaginait pouvoir mettre la danse en musique. Ouais.
Vous aviez déjà signé une bande originale du film Tron, donc de Joseph Kosinski. Mm-hmm. Écrire une musique de ballet, c'est autre chose, a priori. Écrire ici 650 pages, j'ai lu quand même de musique, c'est quand même autre chose. Comment vous avez abordé le travail par rapport à l'écriture de la musique d'un film ?
Alors, à la fois, c'était très libre, parce que j'ai écrit la musique avant le ballet, donc j'avais plus de liberté, finalement, que d'écrire l'image. Après, c'était quelque chose que je ne savais pas vraiment du tout faire, donc j'ai, de manière assez basique au départ, je me suis... J'ai lu des traités d'orchestration et j'ai essayé d'aborder comme ça ce travail de l'orchestration que je n'avais jamais fait. En fait, j'avais écrit pour l'orchestre, mais avec des arrangeurs et des orchestrateurs, alors que là, je voulais écrire tout seul. Donc voilà, j'ai écouté beaucoup de musique orchestrale, j'ai lu beaucoup de partitions.
Rimsky-Korsakov, Berlioz.
Ça, c'est les traités, oui.
Les traités ouais.
de Rimsky-Korsakov, de Berlioz.
Qu'est-ce que vous avez appris qui vous a servi ou qui vous a intéressé, du moins, Thomas Bangalter ?
Disons que ce qui était intéressant dans ces traités, c'est que c'est principalement des constatations, en fait. Elle explique pas vraiment pourquoi tel pupitre marche avec tel autre. Donc on dit oui, bon, les flûtes et les premiers violons, ça marche bien ensemble, ça crée telle atmosphère. Donc voilà, moi j'étais intéressé de découvrir ces règles pour les suivre ou sinon pour pas les suivre non plus. Mais fallait bien que je commence quelque part et c'était de cette manière-là que...
Vous n'aviez pas la culture de la partition, vous ?
Un petit peu, mais pas... J'avais fait du piano entre 6 ans et 12 ans. Après, j'ai arrêté. Et après, quand j'ai fait de la musique avec Daft Punk, les partitions, on en avait pour les musiciens de studio avec qui on travaillait. Mais sinon, on travaillait sans partition. Ouais.
Vous travaillez avec partition, vous, Lucie Antunes, qui avait un parcours classique ?
Non, plus maintenant.
Un parcours d'arrangeuse aussi. On a entendu des choses, c'était au Printemps de Bourges.
Sur le répertoire de Brigitte Fontaine.
Sur le répertoire de Brigitte Fontaine, que vous aviez complètement réorchestré. Donc, vous avez quand même cette culture-là.
Oui, alors là, pour le coup, quand j'arrange et que je dois travailler avec des musiciens, musiciennes, ça dépend d'eux et d'elles. Je fais des partitions si elles en ont besoin, et sinon, non. Mais pour moi, je n'en fais pas.
Est-ce que vous avez pris en considération les origines albanaises d'Angelin Prejlocage dans vos compositions, Thomas Bangalter ?
Non.
Pour autant, il y a quelque chose que l'on peut retrouver. C'est
alors,
bizarre.
Moi, j'ai des origines... mes arrière-grands-parents viennent de la frontière entre la Pologne, l'Ukraine et la Biélorussie. Donc, on m'a fait remarquer après que c'était plutôt vers l'Est.
Et c'est pour ça que je pensais aux origines albanaises
voilà.
d'Angelin.
Donc, ouais. Non, c'était éventuellement les miennes, mais sans vraiment le faire de manière consciente.
Il y a une mythologie, pour reprendre le titre, russe et même ukrainienne de la musique de ballet, Tchaïkovski, Prokofiev. Ça a pu fonctionner comme des repères pour vous ?
Formellement, Prokofiev, oui. Mais c'était vraiment... Moi, ce que j'apprécie dans les ballets de Prokofiev, c'est un peu cet aspect avec beaucoup de ruptures et un peu comme une sorte de compilation de vignettes où ça part un peu dans tous les sens. Et cette liberté-là, elle m'a rassuré plutôt que d'approcher une structure qui serait plus rigide et plus formelle et plus symphonique, vraiment très organisée. Donc le côté un peu avec toutes ces ruptures et ces vignettes, j'apprécie beaucoup ça.
Et ça s'entend quand on écoute donc plus d'une heure et demie de musique symphonique, des registres différents. Et quand on connaît un peu l'histoire du ballet et de la musique classique, on repère des choses comme des souvenirs. Une ouverture par exemple à la Tchaïkovski, très Lac des Cygnes pour les premiers mouvements. Un peu plus loin, quelque chose plus proche de Prokofiev pour Talestris. Un peu plus loin encore, on pourrait penser à du Gustav Mahler, mais avec des violons, et ça c'est passionnant, qui vont glisser dans l'accouchement. Puis en ouverture du deuxième album, quelque chose qui n'a plus rien à voir, mais qui s'aventure vers d'autres registres, peut-être plus cinématographiques, avec le Minotaure. Très sérieuse, Lucie Antunes, en train d'écouter ça avec une attention hyper concentrée. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Non, je suis impressionnée. comme je m'attendais à rien puisque je ne l'ai pas écouté, j'ai très très envie d'en écouter davantage. Justement, je me demandais il n'y a pas si longtemps qui écrivait des chefs-d'œuvre maintenant, et ça a l'air d'en être un, donc j'ai hâte d'écouter ça.
Vous avez une culture de la musique classique ?
Oui.
Thomas Bangalter ?
Un petit peu, mais c'est marrant que vous parliez des influences cinématographiques parce que moi j'ai découvert la musique classique par deux biais. À la fois par ma mère qui était danseuse de ballet classique.
Une des pionnières de la danse contemporaine.
De la danse contemporaine
dans
ensuite,
les années 60.
Oui. Voilà. Donc elle a eu un parcours classique au départ chez Roland Petit, avec Vision Lemaire. Et ensuite au Ballet Théâtre Contemporain, qui était la première compagnie créée par le ministère de la Culture en 1968 de danse contemporaine en France. Et à la fois aussi par le cinéma, donc la musique symphonique, les films de Chaplin que je regardais en boucle quand j'avais 3 ans, 4 ans, et puis les films d'Hitchcock, Bernard Herrmann, l'utilisation de la musique classique dans les films de Stanley Kubrick. Et donc c'est aussi par ce biais-là que j'ai une lecture... Bon, après, mon grand-père maternel, lui, il écoutait France Musique en boucle et il enregistrait, il avait des dizaines de cassettes et il réécoutait les différentes symphonies.
Et votre père, compositeur aussi, parolier, producteur,
oui.
Pour la variété française. Hein.
Oui, plus la variété,
son nom,
le disque.
C'était Daniel...
Daniel Vanguard, voilà.
Il y a un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
Oui. Mais c'est vrai que lui, disons que... L'aspect de la musique symphonique et la musique classique, c'était moins par lui.
Alors moi j'ai choisi un extrait qu'on va développer qui pourrait vous plaire aussi, Lucien Antounès, vous qui aimez la musique sérielle et la musique répétitive. Il y a cette dimension-là aussi avec les Amazones.
Thank you.
Les Amazones, cinquième tableau de mythologie, la partition symphonique de Thomas Bangalter pour le ballet de Angelin Prège-Locage. C'est un peu ici la rencontre, c'est pour ça que j'adore, entre le lac des cygnes de Tchaïkovski et Dance de Lucinda Childs, quand on regarde la partition américaine. Je vous ai vu aussi hocher la tête, être très attentive, Lucie Antunes.
Oui, je prends ça très au sérieux.
Vous avez déjà travaillé pour des chorégraphes?
Oui, Mehdi Kerkouche, il n'y a pas si longtemps. Et Maude Le Pladec.
Et Maude Le Pladec, oui, pour des compositions. Alors, je dis partition symphonique de Thomas Bangalter, comme si c'était la première fois. Mais non, il y a déjà eu des antécédents, comme par exemple ce Giorgio by Moroder. Période Daft Punk, bien entendu. Donc il y avait eu déjà cette tentation symphonique.
Oui, oui.
C'est pas la première fois d'ailleurs.
Non, non, complètement. Mais
vous ne faisiez pas les arrangements.
Mais on travaillait avec des arrangeurs et des orchestrateurs. Et c'est vrai que moi j'avais ce rêve de pouvoir me dire « Ah, j'aimerais bien écrire pour la contrebasse et le hautbois et pouvoir un peu comprendre comment ça fonctionne. » Sans utiliser justement la technologie non plus, en écrivant directement.
Vous avez commencé à travailler en duo avec l'autre de Daft Punk, ouais. Vous aviez 18 ans. Vous avez eu peur à un moment de ne pouvoir rien faire seul, de douter même de votre capacité, Thomas Bangalter?
Disons que j'ai eu la chance de pouvoir à la fois... faire ce travail à deux avec lui et essayer continuellement des choses en solo aussi. Vous avez mentionné les musiques de films de Gaspard Noé. J'avais fait un label de techno et de musique électronique aussi à l'époque. Mais effectivement, pour ce travail de mythologie, j'avais jamais travaillé sur un projet qui nécessitait à la fois autant de temps et autant d'engagement comme ça, à titre personnel. Et ça répondait aussi à un questionnement. Alors peut-être, est-ce que je peux le faire tout seul? Mais aussi, est-ce que je peux le faire sans la technologie et sans les machines? Et c'était cette question qui m'intéressait, plutôt que vouloir mettre les machines de côté parce que j'aimais plus les machines. J'avais pas besoin de répondre à cette question, plus que l'idée d'explorer un environnement, des circonstances différentes et c'était un peu cette question que j'avais. Donc oui, après des doutes, j'en ai en permanence, et le travail il sert à essayer d'y répondre. Ouais.
Le 12 mai prochain, vous allez fêter les 10 ans de l'album Random Access Memories. Il y aura une réédition, j'imagine, avec des inédits pour cet album en hommage à la soul, au disco, au soft punk. Comment vous regardez cet album aujourd'hui, Thomas Bangalter?
Avec le temps, avec beaucoup de beaux souvenirs. C'était faire ce disque, c'était un peu faire un gros film, sans caméra, quoi. Mais il y a plus de entre 150 et 180 personnes qui ont travaillé dessus, entre les orchestres, les techniciens, les ingénieurs, les bruiteurs. On était parti d'une idée qui était de ne pas utiliser de sources sonores existantes. Hein. Donc à un moment donné, vous passiez le morceau de Giorgio by Moroder. Au début, ça se passe dans un restaurant. Mais on s'est dit on va utiliser des bruiteurs et on va faire un faux restaurant. Et donc c'était un travail où, à un moment donné, où la technologie permet comme ça des banques de sons, une infinité de sons qui sont disponibles, de dire on va créer tous les sons. Voilà.
Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette édition anniversaire? Il y aura des enregistrements inédits,
il y a 35 minutes de musique supplémentaire. C'est un peu des surprises. L'idée de lever le voile un petit peu sur le processus créatif, sur de la musique qu'on a mis de côté, qu'on n'avait pas décidé de mettre à ce moment-là. Et puis... on a sorti déjà un petit extrait qui est une séance de travail avec Todd Edwards où on écrit les paroles d'une chanson
en live.
Mais il y avait eu un morceau un peu interview avec Giorgio by Moroder, et là c'est un peu une sorte de morceau documentaire, et Voilà, donc c'était l'idée de finalement lever un petit peu le voile sur ce processus maintenant que l'aventure était terminée.
Thomas Bangalter, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Lucie Antounès dans quelques instants, avec Marion Guilbeault. Est-ce que vous connaissez Zao de Sagazan ?
Non.
Et vous, Lucie Antounès ?
Oui.
Une voix identifiable, des textes formidables, avec quelque chose de Stromae dans le phrasé, mais elle est unique aujourd'hui dans le paysage musical, avec la sortie de son premier album, La Symphonie des Éclairs, on y revient, à ses dimensions symphoniques, Tristesse, sur France Inter.
Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir, j'ai enfin trouvé la sagesse, et désormais les pleins pouvoirs, quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin, manipulé par vos mains dégueulasses. De désespoir, ma rhinitis je suis, et sûrement pas l'inverse, les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse, et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir, j'ai enfin trouvé la sagesse, et désormais les pleins. Je ne suis qu'un pauvre pantin, manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Ma runétie je suis, et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Ma runétie je suis, et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Ma runétie je suis, et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Ma runétie je suis, et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions de création, je contrôle. Je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste. Pour tout vous dire, il arrive des fois qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
Marionnette, on est...
Après la tristesse de Zao de Sagazan, les dossiers SM de Marion Guilbeault.
Sexy. Côté. Sexy.
Club. Les dossiers SM.
Le cool.
Sur France Inter.
Comme celle musicale.
Ouais, bien sûr. L'Homme Pâle, Damso, Chaka Ponk, Aurel San, les affiches des festivals d'été se suivent et se ressemblent. Mais alors pourquoi proposent-ils presque tous les mêmes artistes ? C'est peut-être la faute aux data, comme le révèle un excellent papier de Libération signé Éric Delay. Tous les échelons de l'industrie musicale sont friands de ces informations extraites des réseaux sociaux, des plateformes de streaming, des sites de billetterie, des médias en ligne. Auditeurs, artistes, tout le monde est fiché. Et certains programmateurs de festivals sont de plus en plus tentés de recourir à l'analyse de ces fameuses data quand on sait que leur métier, c'est d'en d'anticiper 6 mois, voire 1 an à l'avance, les goûts de spectateurs qui ont souvent aussi la moitié de leur âge. Ainsi, Alex Stevens, du festival de Dour en Belgique, a créé en 2014 Booker.fm. C'est un logiciel qui compile les datas de quelques 560 000 groupes et artistes. Il compile donc les écoutes sur Spotify ou SoundCloud, les likes sur Instagram, Facebook, les vues sur YouTube, sur TikTok, etc. Et à partir de ces datas, chaque groupe ou artiste est noté de 0 à 100 avec une mise à jour en temps réel par des algorithmes ajustables à la spécificité du festival concerné, comme le genre musical, le public ciblé. Dans le cas de Dour, eh bien cette année, c'est Lompal et Damso qui sont en haut du classement et du coup, bah, ils seront à l'affiche de Dour cet été. Les résultats, bien sûr, ça diffère selon les festivals, selon les pays, voire selon les régions. À Marseille et Dour, c'est pas du tout le même résultat. Pour Alex Steven, ce logiciel constitue une aide à la décision et selon lui, 10 à 20 festivals pourraient l'acquérir cette année. Ce ne sera pas le cas des Eurockéennes de Belfort, dont le directeur Jean-Paul Roland défend, lui, l'idée d'une programmation qui se fait avec de l'instinct et du goût, même si cet été, cette tête d'affiche, eh bien c'est Lompal, Indochine, Orelsan, Chaka Pong, etc. C'est les mêmes qu'ailleurs, mais ils se rattrapent en prenant des risques sur les artistes qui évoluent, comme on dit, en seconde division. Même son de cloche chez nos amis de Beauregard et des Transmusicales de Rennes qui, eux, n'invitent que des artistes n'ayant jamais ou presque joué en France. C'est un papier à lire dans son intégralité dans Libération. Après les datas un peu de politique, qui a dit que les artistes d'aujourd'hui étaient déconnectés de la chose publique, centrés sur leur nombril et leur nombre de clics. Ce qui s'est passé dimanche dernier au Doc B de Pantin semble prouver le contraire avec Brave O pluriel, point d'exclamation. Un concert de soutien aux grévistes et manifestants contre la réforme des retraites, un concert organisé par le collectif La Familiale, près de 50 rappeurs et rappeuses, toutes générations confondues, ont défilé sur scène. L'entièreté de la recette, 500 entrées payantes à 10 euros, je vous laisse faire le calcul, est allée à une caisse de grève soutenant le mouvement. Tous les artistes contactés sont venus gratuitement, il y avait des têtes d'affiche comme Sniper, comme Medine, Attic, et puis il y avait aussi des artistes plus confidentiels, plus pointus, pas mal de femmes aussi comme Esther ou encore Emaji. Tout le monde a joué exactement le même temps, 10 à 15 minutes max, devant un public chauffé à blanc, tous unis par la même méfiance, quand ce n'était pas la même détestation de la police. Deux autres soirées braves sont d'ores et déjà prévues, une à Lille, une à Marseille. Et comme certains poids lourds du rap n'ont pas pu venir à la première, une nouvelle soirée parisienne va se reprogrammer. Elle n'ira pas aux soirées braves et la retraite, elle n'en veut pas. C'est Françoise Hardy qui, dans un entretien au JDD, seule face à tous ou presque, se dit favorable, elle, à la réforme et dénonce les violences et les dégradations matérielles lors des manifs. Alors que 300 personnalités du monde de la culture ont manifesté leur opposition à cette réforme dans une tribune publiée dans Libération, l'interprète du Temps de l'amour argumente que tous les pays européens ont mis l'âge de la retraite à 65, 66, 67, sauf le nôtre, dont la dépense publique est la plus élevée d'Europe. L'artiste estime que ces mouvements sociaux aggravent la situation économique avec les problèmes de transport qu'elles provoquent et font de la France un repoussoir touristique. Et sinon, pour rester dans le domaine de la réaction, un drôle de projet. C'est celui du réalisateur Guillaume Prodovnik qui signe Thatcher Not Dead, un documentaire brillant sur Margaret Thatcher qui rappellera à ceux qui l'ont oublié ce que c'était que le Royaume-Uni dans les années 70-80. C'était noir, c'était violent, c'était traversé par des combats désespérés des héros de l'époque, les prolétaires anglais. La bande originale est signée David Menck et Lionel Limignana avec Oliver Ollett au chant et elle rend hommage à la musique de cette période. To escape a desperate life of poverty, groveling over your half-eaten loaf of white bread, wishing you could afford an ounce of spread. You're barely alive as the next bill drills a hole and you still struggle to survive. The trains below are rumbling, crumbling your yellow stained walls, leaving behind rusty pipes as they turn to dust and you're tumbling. You try to take loans to postpone your misery, carrying the boulder of debt on your shoulders to give your family a shot at life. The winters are getting colder, choosing to replace your old boiler instead of buying children's toys. No point leaving a glass of warm milk for Father Christmas, he's too busy with the rich kids. You're left with a piece of coal stolen from the pit of despair. Master Plan, c'est un extrait de cette BO, c'est sorti la semaine dernière à l'occasion de l'anniversaire de la mort de la Dame de Fer le 8 avril. La BO de Thatcher Not Dead sortira en double vinyle le 22 avril pour le disque RD. Alors je ne vais pas vous demander votre position sur la réforme des retraites, Lucien Tunès et Thomas Bangalter, mais l'utilisation des datas comme ça le fait là, dans les festivals, qu'est-ce que ça vous inspire, Lucien Tunès ?
Ah, moi, je suis complètement dépassée par cette information. Je dois avouer que ça ne m'inspire pas grand-chose. J'ai un peu peur.
De votre côté, Thomas Bangalter ?
Moi aussi, j'ai un peu peur. Mais
Vous vous en doutiez ?
Oui, bah, j'ai même lu des mises en place d'algorithmes dans les expositions. On va mettre des caméras devant les sculptures pour voir combien de temps les gens s'arrêtent devant chaque sculpture pour finalement optimiser le parcours en utilisant du big data. Je parlais tout à l'heure d'un débrayage humain et d'avoir des curateurs comme ça, des personnes qui continuent à imaginer ce que le public pourrait aimer, ce qu'ils ne connaissent pas déjà, et remplacer entièrement tous les systèmes par les algorithmes. C'est vrai que ça me fait un petit peu peur.
C'est la phrase de Picabia, vous aimez tout ce que vous connaissez déjà, bande d'idiots. C'est exactement ça.
Oui.
Côté.
Club. Vous pourrez écouter chez moi ou dans un club.
Laurent Goumard.
Et rien ne remplace le live dans une émission musicale. Je vous propose, Lucien Tounès, de partir en live avec vos musiciens. Tout le monde est installé pour deux titres. Ça vous va, Thomas Bangalter ?
Avec plaisir.
Eh bien, c'est parti. Premier titre, It's Amazing.
Oh, ring the bell, 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 ring the bell. Ring the bell, 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 ring the bell.
It's amazing.
It's amazing, génial. En live, génial. Quelquefois, on regrette qu'il n'y ait pas de caméra, parce que là, quand on regarde Lucie Antounès en chef d'orchestre, ah, véritablement, en train de regarder ses musiciens, de pousser les mains vers l'une, de pousser les mains vers l'autre, c'est formidable. Deuxième titre, on enchaîne, Lucie ? Super. Incroyable, merci magnifique. Lucie Antounès en live pour Côté Club avec ses musiciens, ses musiciennes, composition avec cloche, avec sifflet, avec bien sûr la percussion, prise de son Adèle Caglar et Benjamin Troncin. Merci au duo gagnant de France Inter, Thomas Mangalter.
Ça me plaît de ressentir des émotions comme ça, de voir quatre musiciennes et musiciens qui utilisent toute cette sonorité à la fois acoustique et électronique. Et je parlais tout à l'heure de l'utilisation de ces outils pour créer une émotion qui est bien humaine. Et voilà, c'est un peu un exemple qui me parle par rapport à ça, plus, et de ne pas se faire dominer par cette technologie, plutôt de l'apprivoiser, de l'intégrer pour créer de l'émotion.
Oui, ça, elle est bien humaine et bien vivante. D'ailleurs, le mot « vivante » revient dans deux titres sur cet album. On va y revenir, Lucie Antounès. Deux extraits donc de ce nouvel album en live. Et deuxième album, c'est Carnaval, qui arrive après Sergueï. C'était le premier album en 2019. Il a été augmenté en édition de luxe. Piqûre de rappel pour se rappeler ce que ça donnait à l'époque. Les années ont passé depuis ce son de 2019, Lucie Antounès.
Oui, en effet.
Quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus joyeux, dansant, même si Carnaval est un programme peut-être plus désespérant, puisque le Carnaval, c'est l'esthétique du renversement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien se révolter. Comment vous l'avez construit, ce deuxième album ? Est-ce que vous l'avez construit en radicalisant le premier ou en allant contre lui ?
Non, j'ai vidé ma valise. J'ai fait le vide, j'avais besoin de ça. Donc, normalement, dans ce premier album, j'ai travaillé avec souvent 126 pistes, avec deux marimbas qui faisaient la même chose, mais pour trouver une sonorité, avec un vibraphone que je mélangeais, avec des ondes Martenot qui faisaient exactement les mêmes lignes, pour trouver, justement, un peu à la John Cage, des textures qui n'existaient pas. Et là, après plusieurs mois de recherche, j'ai décidé de partir de quelque chose de beaucoup plus épuré, un synthé, des voix et des percussions, voilà. Et rien d'autre que ça, je suis partie de là. Et en effet, j'ai eu besoin de, comme beaucoup de gens, j'imagine, après tout ce qu'on vient de vivre, j'ai eu besoin de joie et j'ai eu besoin de me répéter que tout allait bien, voilà.
Comme un mantra.
Comme un mantra.
La première chanson qui est apparue, c'est laquelle ?
It's Amazing.
Celle qui ouvre l'album ?
Non, c'est Yagé qui ouvre l'album.
Oui. Mais disons que c'est celle que vous avez mis en avant pour cet album.
C'est oui, en effet, pardon. En effet, c'est It's Amazing qui ouvre cet album. Et alors, c'est vraiment le morceau le plus vide que j'ai pu écrire. Il y a vraiment, je ne sais pas, 10 pistes, je pense. Et en fait, j'ai compris que j'écrivais de la musique complexe parce que je m'appuyais aussi sur mes années d'études que j'ai pu avoir au conservatoire. Et pour moi, il était important d'écrire beaucoup, beaucoup de polyrythmie. Et je me suis challengée et je me suis dit, est-ce que je suis capable d'écrire un morceau, couplet, refrain, qui tienne la route juste en piano-voix ? Et ça m'a pris pas mal de temps parce que j'ai dû apprendre à le faire.
Vous comprenez ces interrogations, Thomas Mangalter ?
Complètement, elle me parle. Cette idée de dialoguer avec soi-même dans son processus créatif, étape par étape, et de se poser ces questions, finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment essentiel. Le rapport avec l'extérieur, le public, c'est plus comme des encouragements, finalement, à continuer. Là où ça peut devenir compliqué, des fois, c'est quand ces encouragements, on a l'impression qu'ils vont commencer à définir la direction qu'on va prendre, et la capacité, finalement, à dire non, moi je vais continuer à me poser ces questions et ces questionnements qui sont très personnels. Et c'est le principal, je pense, mais ça me parle complètement.
Lucie Antounès, je lisais aussi que vous écoutiez la BO des Sparks pour le film Annette de Léos Carax. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Qu'est-ce que vous y avez entendu ?
Beaucoup d'inspiration. C'est après ça que j'ai écrit Carnaval. Ce film et cette BO m'a complètement bouleversée, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça libre, j'ai eu l'impression qu'ils ont écrit tout ce qu'ils voulaient. Et c'était merveilleux, et donc ce côté aussi comédie musicale m'a plu, beaucoup.
Vous terminez l'album sur Vivante, part 2, oui, qui fait écho à Vivante, part One, qui est en deuxième position sur l'album. On écoute la partie 2. Vivante, quelle est l'histoire de ce titre pour qu'il encadre l'album, Lucie Antunes ?
Alors, celui-ci, c'est vraiment le lien entre l'avant et l'après. Voilà, donc c'est pas forcément un bon exemple du minimal que j'ai voulu faire ressortir dans cet album, et en même temps, j'ai pas pu m'en empêcher. C'était vraiment plus fort que moi, j'ai voulu quand même écrire au moins un morceau avec quelques polyrythmies, quoi.
C'est pour ça que j'ai choisi. Carnaval, le titre a des allures de programme politique, puisque le carnaval, c'est l'esthétique du renversement. Musicalement, ça devait prendre quelle forme pour vous, ce renversement ? Le carnaval, c'est mettre les choses à l'endroit, le mettre à l'envers. Généralement, le roi du carnaval, c'est la personne la plus, on va dire, socialement la moins intégrée. C'est toujours renverser les valeurs. Donc, musicalement, qu'est-ce que ça pouvait inspirer ?
Moi, j'ai pas du tout pensé le carnaval ainsi. Pour
vous l'avez
moi,
pensé comment, alors ?
Le carnaval, c'était vraiment une célébration. C'était juste ça. Il y a vraiment cette idée de célébration et de pouvoir jouer avec peu, qui est ce qui se passe avec le carnaval, en fait. Et c'est ce qui me manquait, puisque moi, encore une fois, j'utilise énormément d'instruments pour arriver à mes fins. Là, je me suis inspirée vraiment de musique traditionnelle du monde entier qui utilise pas forcément beaucoup d'instruments pour jouer ensemble. Voilà, et c'était l'idée de célébration et aussi de chamanisme, parce que pour moi, dans le carnaval, il y a aussi ça, l'idée de la vie et l'idée de la mort, parce qu'on célèbre aussi la mort à travers le carnaval. C'était plus ça qui m'inspirait.
Vous avez été initiée au chamanisme ? Vous en avez fait l'expérience ?
J'ai vécu une expérience d'ayahuasca. D'ailleurs, le premier morceau s'appelle Yagé. J'ai pas voulu l'appeler ayahuasca, mais c'est le diminutif de Yagé.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, j'ai vécu deux jours où j'ai pris cette plante et j'ai eu deux jours chamaniques très puissants.
Vous avez vécu ce type d'expérience, Thomas Bangalter ?
Non. Mais ça m'intéresse.
Ah ouais, c'est super passionnant.
Oui, je suis fasciné par ça. Et l'aspect, par rapport à l'aspect chamanique, c'est vrai qu'il y a une désacralisation ambiante et peut-être une dévalorisation symbolique de la musique. Donc la re-chamaniser comme ça, ça me parle aussi beaucoup. Ouais.
Et bien, ce sera le mot de la fin. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Thomas Bangalter.
Merci beaucoup.
L'album, c'est Mythologie. Je signale la diffusion le 15 avril prochain sur Culture Box du ballet d'Angelin Préjlocage, filmé au Châtelet, à Paris. Lucie Antunes, merci à vous.
Merci.
Merci à vos musiciens et musiciennes. Je rappelle le nom de l'album, c'est Carnaval. Il sortira le 17 avril avec de nombreux concerts jusqu'à la rentrée prochaine. Je cite le 19 avril, par exemple, le Printemps de Bourges, le 19 mai, Nantes au Stéréolux, le 19 juin à Amiens, minuit avant la nuit, et le 23 août, Paris, Rock en Seine. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Si, on va ajouter quelque chose. L'album, il sort le 14 avril, vendredi.
D'accord. Et non pas le 17, qui était sur ma fiche. Parfait. Tout est réglé. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain... Mais non, elle va très bien, Chloé. Elle sera notre invitée demain. Elle signera le DJ set de Côté Clubbing avec à ses côtés Rubin Steiner. Côté Club, c'est l'équipe qui ouvre les oreilles chaque soir. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Adèle Caglar, Benjamin Troncin, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, Louise Tempéro à la programmation et enfin aux playlists ce soir. Et comme tous les soirs, c'est Valentine Chedebois. Côté Club, c'est fini. Que la musique soit avec vous.
Côté. Notre petite séance est terminée.
Oh, c'était formidable.
Je vous souhaite une très très belle soirée.
Oui.
Club.
Bye.